Voilà, merci à tous. Grâce à Dieu, j'ai été rétabli. Ce sont les maladies de là-bas, le paludisme qui m'a saisi et qui m'a effondré parce que j'étais avec une fièvre au-delà de ce que je pouvais supporter. Mais Dieu a entendu la prière. Alléluia. J'ai des nouvelles du Niger récentes et nous disons merci au Seigneur de ce que l'œuvre avance, puisque nous apprenons que les églises grandissent en nombre. J'ai appris qu'une dernière église, ils vont la rallonger parce que les gens n'y contiennent pas. Alors nous sommes heureux parce que Jésus est le chef de l'église et il se sert des serviteurs de Dieu d'un côté, de l'autre, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient les nationaux. Eh bien, il y a un grand travail qui se fait. J'ai appris depuis quelque temps, vous savez, on vous l'avait dit, on avait commencé des églises sur le Burkina Faso, parmi le peuple Gourmanché. Eh bien, aujourd'hui, il y a 4 églises qui ont été commencées depuis le Niger et qui s'épanouissent. Et les voisins, les villages voisins, maintenant, demandent qu'on leur porte l'évangile parce qu'ils ne l'avaient pas entendu. Alors ce sont des bonnes nouvelles, il y a tout un travail en perspective, et c'est vrai que quand on pense que dans un coin de planète, il y a des gens qui nous prient presque pour demander « Oh, venez chez nous, nous voulons écouter aussi l'évangile », enfin ils ne disent pas l'évangile, « Nous voulons entendre ce que vous avez à dire pour devenir comme nos amis voisins ». Alors, gloire à Dieu, puisque cette église est vraiment investie avec le pasteur, avec Gérard et son épouse, et Jérémy, et puis tous les autres. Nous voulons louer Dieu parce que vous priez et il se passe de grandes choses aussi. C'est une grâce de Dieu. J'apprends aussi que l'hôpital de Torodi, eh bien, fonctionne bien. De plus en plus de malades viennent pour être soignés. Et nous avons nommé un aumônier à l'hôpital. C'est un serviteur de Dieu qui a été formé à l'école biblique et qui régulièrement passe dans les chambres des malades et puis leur annonce l'évangile. Et la plupart, il nous disait, puisque je l'ai eu aussi au téléphone, acceptent que l'on prie pour eux, on leur annonce l'évangile, on ne voit pas de suite le fruit, mais ils rentrent chez eux et ensuite ils disent « On a été d'une part bien soignés, à un prix, eh bien, symbolique, mais en même temps, on a entendu des choses étonnantes. » Et donc, l'évangile est annoncé, gloire à Dieu. Alors, les projets en perspective, pour ceux qui disent « Est-ce que vous allez repartir ou vous ne repartez plus ?» Eh bien, ce sont des projets, Dieu voulant, vers le mois d'octobre, quand la saison des la moisson aura eu lieu, puisque c'est un milieu rural, nous risquons de partir sur le côté Togo, pour eh bien, nous occuper de l'évangélisation au Burkina, et bien aussi au Niger un peu, mais disons que l'ambassade de France au Niger demande aux ressortissants français de ne pas se rendre visible, de ne pas aller et venir, parce qu'il y a toujours ce risque d'enlèvement. Alors, eh bien, par prudence, on risque à contourner par le Togo, là où nous avons un orphelinat de Monde Action. Et puisque le peuple Gourmanché aussi est sur le Togo, le Bénin, le Burkina et le Niger, eh bien, commencer aussi cette œuvre avec l'aide de la main-d'œuvre des pasteurs qui viendraient du Niger pour nous renforcer. Alors, priez pour ce projet, priez pour que le Seigneur, eh bien, nous donne toujours cet élan, cette joie. Ce n'est pas que nous avons choisi l'ethnie Gourmanché plus que les autres, puisqu'il y a d'autres ethnies autour, il y a les Peuls et il y en a d'autres, mais le Seigneur nous dirige comme cela. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, ce ne sera pas un message nouveau, préparé spécifiquement pour ici, mais depuis quelque temps, je m'occupe de l'église de Condom. Et j'ai eu à cœur de parler sur la foi. Et si j'avais un titre à donner à ce message ce matin, c'est « Tendre vers une foi toujours plus grande ». sachant que, comme l'a dit Jésus à Thomas, heureux ceux qui croient sans voir. Lui voulait des preuves, lui voulait toucher Jésus sur les stigmates, mais il est tombé d'adoration. Il a dit, toi, tu as vu, mais désormais, heureux ceux qui croiront sans voir. Amen. Alors je vous invite à faire une lecture dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, pour se rappeler de la définition de la foi, et vous resterez sur l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 11 et le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et il y aura d'autres citations que je lirai, mais je voudrais quand même lire avec vous le chapitre, au chapitre 10 de Hébreux, et le verset 37 au verset 39. Hébreux chapitre 10, verset 37. « Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. » Et je cite 2 Corinthiens 5, verset 6, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ce message va s'adresser à ceux qui doutent. Ça peut arriver. Et le but que je ressens dans mon cœur, c'est que nous ayons tous la foi qui vient du Seigneur Jésus, qui est un don de Dieu qui nous est transmise à l'écoute de la parole de Dieu. Ce message s'adresse aussi à ceux qui peuvent peut-être avoir une foi, mais qui est remplie de rites, de programmes, qui pense à une institution religieuse. Et je voudrais que, même si cela existe, qu'on puisse se focaliser sur la foi en Jésus, puisqu'il est l'initiateur de la foi. Quand on regarde à lui, c'est lui. Et donc cette foi pure, eh bien sûr, nous donnera d'être des fidèles engagés dans l'Église, des fidèles dans les œuvres que nous aurons à faire, mais c'est important d'avoir les regards sur Jésus. Ce message s'adresse aussi à ceux qui se posent des questions au sujet des souffrances et des épreuves qu'ils traversent. Alors on va toucher un peu certains domaines, mais ça sera des pistes, mais la parole de Dieu donne des solutions. Je ne vais pas faire un état des lieux seulement, mais je vais trouver les solutions pour une foi toujours plus grande pour ceux qui traversent des difficultés. Et ceux qui veulent le bonheur sur cette terre et pour l'éternité, ce message va s'adresser à vous et tous ceux, enfin, qui veulent être utiles envers leur prochain devant Dieu et au monde entier par amour pour Jésus. Amen. Alors, je commence d'emblée. Le Seigneur dira qu'il nous faut croire et ne pas douter. Ayez la foi en Dieu ou la foi de Dieu. Vous savez que le doute vient de Satan. C'est clair, dans Genèse chapitre 3, verset 1er, il y a eu la conversation du serpent avec Ève, et Ève était quand même au clair sur la parole de Dieu. Tu ne toucheras pas du fruit de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, sans quoi tu mourras. Et c'est ce qu'elle a dit à Satan. Si on en mange, on mourra. Mais Satan l'a fait douter. Non, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et donc, à partir du doute, elle a consommé le fruit, elle a donné à son mari, et c'est là que le péché est entré dans le monde. Le Seigneur nous dit qu'il ne faut pas douter. Alors, je vous fais état de quelques passages où il est dit que même des hommes qui ont fait des exploits dans le domaine de la foi, tel Pierre, Jésus lui dit « Viens !» Il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau, comme Jésus. Mais il est dit qu'à un moment donné, il vit que le vent était fort. Matthieu 14, 30. Il vit que le vent était fort. Tant qu'il s'est dirigé, qu'il a regardé Jésus, il marchait sur l'eau. Mais il a regardé plutôt le vent. Et Jésus lui dira, « Eh bien, pourquoi as-tu douté ?» Voyez-vous, c'est vrai que Jésus veut que nous puissions avoir la foi, mais pas la foi d'un instant. Une foi constante, une foi régulière, et celle-ci, c'est celle qui est ayant les regards sur Jésus. Toujours regarder à lui. Alors, ne pas douter, c'est savoir que d'une part, je m'adresse à ceux qui viennent pour la première fois ou qui sont nouveaux ici. Jésus, vous savez, c'est en lui qu'il nous faut la foi. Il est venu sur la terre et il a tout accompli pour que nous soyons sauvés. Le pardon est déclaré, lui-même l'a dit, tout est accompli. Amen. Mais ça ne suffirait pas. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 17, que si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Notre prédication est vaine. Mais l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dira « Jésus est ressuscité ». Et la force de la foi, c'est que Jésus, Fils de Dieu, a tout accompli en mourant sur la croix pour pardonner nos péchés, mais qu'il demeure éternellement le même. Notre Sauveur est vivant, vous pouvez y compter. Et pour ceux qui peut-être sont troublés par l'affluence de toutes les religions, de toutes les sectes, où l'on dit on ne sait plus à quel saint se vouer et qui croire, eh bien je peux vous dire que tous les fondateurs de sectes, de religions, quoi que le soit organisé ou très représentative, eh bien souvent ils sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Jésus, lui, est ressuscité, il est vivant et il est le seul sauveur que Dieu nous a envoyé. Jésus l'a dit, vous allez aller dans le monde entier, prêcherez la bonne nouvelle à toute la création. Et il est dit ceci, celui qui croira, c'est-à-dire au Fils de Dieu, Jésus, et qui sera baptisé sera sauvé. La foi, c'est une ferme assurance, c'est croire que Jésus est véritablement vivant. Il ne nous demande pas de mériter d'arriver devant lui en dignité ou un peu plus propre que celui qui est très pécheur. Jésus nous dit, c'est par la foi. Tu crois et tu seras sauvé. Alors, c'est là que je me dis, c'est extraordinaire, mais je vais y arriver, à la simplicité de l'évangile par lequel on a la foi. Mais je voudrais justement faire un petit détour. Vous savez, dans Matthieu 11, verset 23, Jésus a fait des miracles dans Capernaum. Extraordinaire. Il s'est passé des choses extraordinaires. Et puis Jésus va faire un reproche. Et toi, Capernaum, tu as été élevé jusqu'au ciel. Tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles que l'on a fait parmi vous, avait été fait dans Sodome, eh bien, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. Et ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, à chacun de nous, bien-aimés, c'est que la foi qui sauve, elle est plus importante que la foi momentanée pour guérir d'une maladie, pour voir une situation qui semblait irréversible, qui a été miraculeusement transformée. C'est extraordinaire, Jésus veut le faire, mais Jésus dira que ce qui compte, est-ce que tu as la foi pour être sauvé? Est-ce que tu as la foi pour passer l'éternité avec Jésus au lieu d'aller en enfer? Alors, aujourd'hui, bien sûr, il y en a certains qui disent « Mais quand j'étais enfant, on a prié pour moi, j'ai été guéri. » Il y en a qui sont aussi les bénéficiaires de guérisons, de miracles, parce que d'autres ont prié pour eux. Mais ils ne se sont pas convertis et ils n'ont pas eu la foi pour aller jusqu'au bout. Et il est question de ces 10 lépreux. Jésus leur dit, eh bien, allez vous montrer au sacrificateur, parce qu'ils étaient lépreux, et le sacrificateur devait donner le certificat de guérison de la lèpre. Ils sont partis, et ils ont cru tous les 10 qu'ils étaient guéris, et pendant qu'ils marchaient, ils se sont retrouvés tous guéris. Un seul est revenu vers Jésus, et Jésus dira, et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Est-ce cet étranger, ce samaritain, qui est revenu, et Jésus lui dira, ta foi t'a sauvé. Oh, je voudrais vous dire, c'est vrai que peut-être vous patientez, vous êtes dans des épreuves, vous êtes dans une maladie, vous êtes dans une situation où vous ne vous en sortez pas, mais, oh de grâce, si vous avez la foi qui vous a permis d'accéder au pardon et d'accéder à Jésus pour être sauvé, vous êtes les plus heureux sur la terre. Alors les disciples sont arrivés, ils avaient été envoyés 2 à 2 pour chasser les démons, pour annoncer la bonne nouvelle. Ils sont revenus, Seigneur, même les démons nous sont soumis. On dirait que Jésus a voulu les régler. Luc 10, verset 20, il dira, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia! Ça, c'est une grande joie, de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est la vraie foi, c'est celle-là qu'il nous faut. Alléluia! Et puis, on avance. Je vais vous le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. Ça m'a vraiment frappé et ça m'a rendu beaucoup service parmi les gourmandchés. 2 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je redis que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Laissez-moi vous dire. Il y en a qui sont rationalistes. Ils veulent que l'on explique tout scientifiquement. Et puis il y a des personnes, même si elles ont étudié, même si elles sont bardées de diplômes, on peut être simple. Et quand il s'agit d'avoir la foi en Jésus, ne cherchez pas à comprendre. Il vous a tellement aimé, c'est tellement insondable, ineffable. On ne peut pas y mettre des mots, on ne peut pas y mettre des calculs, ça ressemble à une folie, c'est la folie de Dieu de nous avoir tant aimés. La simplicité. D'ailleurs, Jésus le dira, si vous ne devenez comme des petits-enfants, il ne faut pas l'être par rapport à la connaissance, mais il faut l'être par rapport à la foi. C'est-à-dire prendre, nous y viendrons, sa parole au mot, croire ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, sans chercher trop à comprendre, parce que nous prenons sa parole. Et lui dit, je vois ta foi, et sur ta foi, j'agis. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. heureux ceux qui, eh bien, ne cherchent pas à essayer de couper les cheveux en quatre, mais qui croient tout simplement ce que Jésus a dit. Il y en a qui commencent à prendre, eh bien, l'habitude de discuter sur les généalogies, sur l'inspiration. Est-ce que le dinosaure a existé? Est-ce que, eh bien, il n'y a pas eu d'autres humains? Est-ce que, eh bien, nous devons prendre la parole telle qu'elle est? Le Seigneur nous dit de comprendre qu'il est Dieu, qu'il y a des choses qui sont encore cachées, mais tout ce qui est révélé, c'est Jésus qui est venu nous sauver, qui est mort sur la croix et qui a tout accompli, qui est ressuscité, et il dit « Crois, tu lui fais confiance et tu verras la gloire de Dieu. » Je vois cet aveugle, Jean chapitre 9, verset 11, on est en train de l'interroger. Quand même, il est né aveugle, il avait environ 40 ans, il a de l'âge, diront ses parents. Jésus, il loint ses yeux de la boue et lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé. » Il y est allé, il s'est lavé, et cet homme qu'il n'y avait jamais vu, il a trouvé les yeux et l'y a vu. Alors, est-ce que c'est lui? Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Et ils ont commencé à murmurer, et les religieux s'y sont mis, ils l'ont interrogé deux ou trois fois, et puis il a expliqué son témoignage. L'homme qu'on appelle Jésus a oint mes yeux debout, m'a dit d'aller au réservoir de Siloé, de me laver. J'y suis allé, je me suis lavé et j'y ai vu clair. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la simplicité même, mais c'est savoir que la foi, c'est une obéissance. Il aurait pu discuter et dire « Je suis né sans les yeux ». Non, il a obéi, il est allé au réservoir de Siloé. Je crois que pour nous, c'est important d'avoir cette foi. Alors, je vais vous donner un petit témoignage assez récent. Nous étions dans un village qui s'appelle Fantou, chez les Gourmanchés. Nous annoncions la parole de Dieu, la foi. Et quand nous avons fini, eh bien, les hommes sont venus, m'ont entouré, et ils m'ont dit depuis quelque temps, notre puits a tari. Et nous savons que Jésus peut nous donner de l'eau. Et ils m'ont demandé d'aller prier dans ce puits qui était sec. Et vous savez que Jésus voit la foi des autres, même si nous, parfois, on a quelques doutes, entre parenthèses. Nous sommes allés au puits, nous avons prié Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine après, on nous a dit, mais on a prié Jésus et l'eau est venue dans le puits. Alléluia. Et ça s'est passé textuellement. Mais comme si ce n'était pas assez, dans ce village, c'était les puits coutumiers. Eh bien, quelque temps après, une ONG, All Vision, est arrivée et leur a fait un forage dans le village, de manière à ce que maintenant, ils ont l'eau courante. Dit la foi, cette simplicité avec laquelle ils se sont présentés pour demander à Dieu de l'eau. Eh bien, nous devons aussi la voir, la simplicité. Alors j'arrive à cette simplicité de l'Évangile. Je disais tout à l'heure, ça m'a rendu beaucoup service. Ils n'y peuvent rien, ils n'avaient pas d'école, ils n'ont jamais pu étudier ni réfléchir sur leurs conditions. Et on a annoncé l'Évangile, on est arrivé avec la simplicité de l'Évangile. Un seul chemin pour être sauvé, Jésus. Une vérité, Jésus. Une seule vie, la vie éternelle, c'est Jésus. Une seule foi, c'est Jésus. Un seul baptême, c'est Jésus. Un seul intermédiaire entre Dieu le Créateur et nous, c'est Jésus. Ces gens-là ont cru, et je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, je suis émerveillé de voir les progrès de la foi, les progrès de la consécration, de la sanctification des chrétiens, tout simplement par la simplicité à l'égard de Christ. Que le Seigneur nous donne cette foi. Amen. Alors, je vais maintenant un peu plus loin. Je vous disais tout à l'heure que je ne voudrais pas faire un état des lieux pour laisser comme ça quelque chose de négatif. Mais je me suis posé la question pour moi, et je la pose avec vous. Pourquoi, dirais-je, chez les chrétiens, la foi diminue, la foi faiblit, ou pour certains, ils abandonneront même la foi? Alors, on va faire un peu le détour et voir, je vais citer la parole de Dieu, des références pour qu'on ne se perde pas, pour que je n'extrapole pas sur des choses qui ne sont pas réelles, mais quand même, nous allons voir pourquoi. Et en sachant pourquoi, vous savez, quand on a un médecin est arrivé à diagnostiquer le mal que l'on a, eh bien, c'est là qu'il peut donner le traitement adéquat. Et vous savez, quand on arrive à localiser d'où vient que notre foi faiblit, qu'on n'est plus comme avant, qu'on ne croit plus, qu'on discute la parole de Dieu, eh bien, c'est là qu'on a besoin de cerner d'où ça vient, et le Seigneur nous donne le remède. Alléluia. La foi, Romains chapitre 4, verset 18, vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Oui ou non? On n'est pas né avec des gènes de foi, mais la foi est venue au contact de la parole de Dieu. Il est dit que Abraham crut à ce que le Seigneur avait dit. Il ne tient pas compte que son corps était déjà usé et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par sa foi, donnant gloire à Dieu. Il a entendu la parole de Dieu et n'a pas regardé les choses extérieures qui pouvaient dire tout le contraire. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Vous savez que Pierre et les autres disciples étaient allés à la pêche et ils sont rentrés sans rien. Jésus dira, jetez vos filets. Et Pierre lui racontera, en discutant un peu, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais quand même, et ça c'est ce qu'il nous faut comme réaction, sur ta parole, je jetterai le filet. Il l'a fait. Et il s'en est suivi une pêche miraculeuse. Alors bien sûr, on peut faire des constats en disant, oui, mais j'ai fait ça, je suis allé là-bas, j'ai été voir telle personne. Mais sur ta parole, Seigneur, eh bien, je peux m'engager à croire. Et aujourd'hui, pour celui qui n'était pas sauvé, sur la parole de Jésus qui vous a sauvé, il a pris votre condamnation, vous êtes réconcilié avec Dieu, croyez-le, faites simplement le pas de vous repentir de vos péchés. Et vous êtes sauvé. Sur ta parole, la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Alors, faut-il? Eh bien sûr, la lire. Lisez-vous la parole de Dieu. Répondez au Seigneur. Écoutez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas parasiter par toutes sortes d'interférences qui viennent dans notre esprit, ou soit pour nous faire dormir, ou nous faire penser à autre chose qui semble importante. Elles sont accessoires par rapport à la foi. Écoutez. Aujourd'hui, il y a une parole pour toi. Elle va venir si elle n'est pas venue. Mais écoutez la parole de Dieu, ne la laissez pas perdre. Elle va vous communiquer, vous transmettre la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Mémorisez la parole de Dieu. Il y en a qui parfois perdent la mémoire. Mémorisez la parole de Dieu. Faites travailler, entraînez-vous. C'est comme un muscle, la mémoire. Mais quand on l'entraîne à garder et à mémoriser la parole de Dieu, eh bien, nous avons la pensée de Christ. Et puis, pratiquez-la. Mettez-vous en mouvement. Ce que j'entends, cette promesse qui est la prière de la foi, eh bien, tout cela, Seigneur, je l'entends, mais je ne vais pas me contenter d'être quelqu'un qui s'informe, mais quelqu'un qui pratique. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Tout ce qui est dit par le Seigneur, tout ce qui nous est presque même commandé, c'est accessible, c'est faisable, et le Seigneur nous en donne le pouvoir. Amen. Pourquoi donc, eh bien, la foi chez certains diminue? Eh bien, On regarde trop aux choses passagères. Je l'ai dit pour Pierre, il a trouvé que le vent était trop fort. Mais il est dit dans 1 Pierre 4, verset 12, de ne pas être surpris par la fournaise qui nous entoure pour nous éprouver. Et parfois, on regarde à son problème. Si vous saviez le problème que j'ai, le combat que je mène, le Seigneur en a parlé. Vous allez avoir des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ne crois pas, ne crains pas, mais crois seulement. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand ces paroles ont été prononcées, c'était une situation des plus impossibles. Lazare sentait déjà 4 jours de décès. C'était impossible, mais Jésus dira qu'il ressuscitera. Et je crois que nous avons besoin, eh bien, aujourd'hui, de ne pas se regarder, de ne pas toujours focaliser sur ce qui nous arrive, des épreuves, des combats, et même au niveau familial, mais regarder au Seigneur Jésus. Regardez au Seigneur Jésus. Ne regardez pas au vent contraire, le Seigneur va vous faire marcher miraculeusement. Personne ne peut marcher sur l'eau, à moins qu'elle soit glacée, mais je peux vous dire que dans la vie, eh bien, on peut marcher comme si c'était sur l'eau, parce que c'est surréaliste, c'est miraculeux, mais il nous demande le Seigneur de regarder à lui, de rejeter le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et de courir dans la carrière les regards sur lui, qui est l'instigateur, l'initiateur de la foi. Ça veut dire, eh bien, qu'il faut regarder à lui. Encore une fois, comme il a dit à Thomas, seront heureux ceux qui croient sans le voir. Et nous croyons que Jésus, il est là, qu'il est présent, et que maintenant, nous pouvons saisir dans la foi tout ce qu'il a promis. Amen. On s'arrête souvent aussi à des bénédictions temporelles, ce qui veut dire que certains ont la foi d'un moment. Et Jésus en a parlé dans la parabole des terrains en disant que certains y croient pour un moment, pour un temps, mais quand vient une tribulation, quand vient une épreuve, eh bien, ils abandonnent. C'est fini pour eux. Et je voudrais vous dire que le Seigneur, c'est vrai, nous l'avons dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir trop longtemps, il bénit, il guérit, il agit, il fait des miracles et il faut le croire. Il ne fait pas qu'en Afrique, il le fait à Toulouse, il le fait ici, dans l'église de Sainte-Agne, il le fait dans vos maisons, croyez-le. Amen. Mais maintenant, ne suivez pas Jésus par intérêt. Il est dit dans Jean 6, 66, que plusieurs de ses disciples laissèrent Jésus parce qu'ils avaient mangé du pain, le pain du miracle. Et quand Jésus leur a dit que maintenant il va falloir qu'ils se nourrissent de lui, alors ils ont dit, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Et ce jour-là, plusieurs le laissèrent, plusieurs l'abandonnèrent. Ce sont ceux qui suivent Jésus, mais qu'est-ce que je vais y gagner d'être chrétien? Qu'est-ce que je vais gagner de venir régulièrement à l'église? Et il faut aller plus loin que cela. Ce que vous allez gagner, c'est en abandonnant votre vie entre les mains de Jésus, en l'aimant, en le servant, et les bénédictions, ce n'est pas elles qui vont vous faire rentrer dans le paradis, mais c'est Jésus. Et Pierre l'a bien répondu, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen. Voyez-vous, il y a la solution à tous ces problèmes. Parfois, notre foi faiblit, et je vais vous le lire dans 1 Timothée 1 et le verset 19. Je vous le lis si vous ne le trouvez pas vite, parce que le temps passe. Il est dit à Timothée, d'après que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Parce que ces chrétiens ont perdu une bonne conscience. Ah, mais c'est important. La foi, elle est mêlée à l'obéissance. Et l'obéissance, c'est la foi. Mais certains ont laissé s'introduire le péché. Et c'est à cause du péché qu'il y a la séparation entre Dieu et nous. Ésaïe 59, verset 20. Il y a aussi les péchés récidives. Qu'est-ce que c'est les péchés récidives? Eh bien, je vous l'ai cité tout à l'heure, dans Hébreux 12, verset 1er, le péché qui vous enveloppe si facilement. Ces péchés que parfois on se repent, mais que l'on va recommettre. Et le Seigneur, il dit, rejetez ce fardeau, ce péché qui vous enveloppe si facilement. Parce que le péché enlève une bonne conscience. Et quand on ne se sent pas en règle avec Dieu, vous pouvez y aller, on peut prier, on n'est pas du tout certain, on n'a pas de ferme assurance que le Seigneur nous écoute parce qu'il y a le péché. Et c'est là que le Seigneur dira qu'il faut vraiment se repentir et que si quelqu'un confesse son péché à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste, et il peut nous pardonner. Amen. Récidive, mais je vous écris afin que vous ne péchiez point. Ce qui veut dire, eh bien, le Seigneur dira, ne t'habitue pas à garder un péché, même s'il te semble qu'il n'est pas si monstrueux que ça. Le péché, c'est le péché, même si on veut y mettre des catégories. En tout cas, le Seigneur est mort pour le péché que tu ne veux pas laisser. Et donc, cela peut donner une mauvaise conscience. Entre autres, j'ai vu aussi dans la parole de Dieu qu'il y a des personnes à qui Jésus exhorte, « Ayez foi en Dieu, croyez et ne doutez pas. » Il a parlé de la montagne. Et puis, il semblerait qu'en finissant, il dira, « Mais pendant que vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père vous pardonne aussi. » Cela peut enrayer la foi, faire naufrage dans la foi pour ceux qui ne pardonnent pas. Il y a des personnes qui vivent avec de la rancune, avec des ressentiments, qui rabâchent toujours tout le mal qu'ils ont eu, qu'on leur a fait, et qui ne savent pas, une fois pour toutes, se confier au Seigneur pour dire « Je veux pardonner comme Christ m'a pardonné ». Et cela sape la foi. « Pardonnez », dira le Seigneur, et ainsi nous aurons une bonne conscience. La langue, eh bien, c'est aussi un péché. Si on ne tient pas sa langue en bride, eh bien, on pêche. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Soyez prompt plutôt à écouter que de parler. Et vous savez, avec la langue, tel qui parle légèrement, on peut blesser comme un glaive. Il y a des personnes comme ça qui parlent à tort et à travers, et au fur et à mesure qu'ils parlent, eh bien, ils blessent, ils font du mal. Le Seigneur dit qu'on peut arriver à dompter sa langue. Et si on arrive à dompter sa langue, Jacques chapitre 4, eh bien, on tient tout son corps et on peut devenir quelqu'un de parfait. Donc, ce péché a fait beaucoup de dégâts chez les autres, mais aussi la langue, nous pouvons la tenir. On a chanté que le Seigneur nous garde des paroles trompeuses. On peut mentir. On peut parler aussi négativement, comme disait Jérémie dans les Lamentations, j'ai dit, ma force est perdue. Il a commencé à parler négativement et tout cela, et son âme était en souffrance. Mais après, il a dit, voici ce que je veux rappeler, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, se renouvellent chaque matin. Parfois, on parle négativement. Parler par le moyen de la foi. Parler dans le même sens que Jésus a parlé. Il a dit, ayez foi en Dieu. Et même, il nous reproche, comme il a reproché à ses disciples, pourquoi avez-vous douté? Et je me suis dit, tout simplement, tout naïvement, si Jésus s'étonne de ce que les disciples ont douté, c'est qu'ils pouvaient ne pas douter. Mais ils ont choisi l'option de douter. Et nous, aujourd'hui, eh bien, souvent, on parle de ce qui ne va pas et on ne parle pas de la foi. La foi en Jésus, c'est la victoire qui triomphe dans notre monde. Vous êtes dans le monde, je suis dans le monde, et la victoire qui triomphe dans notre monde, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Et tous ces péchés ternissent la conscience et empêchent la foi, c'est la convoitise, c'est pareil, je ne vais pas trop m'y arrêter, mais le Seigneur l'avait déjà dit dans Exode 20, tu ne convoiteras pas, ni l'âne de ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, tu ne convoiteras pas. Et aujourd'hui, dans ce monde de voyeurisme, ont fait que certains sont séduits et ils sont amorcés par leur propre convoitise qui enfante le péché après la mort. Et certains ont perdu la foi parce qu'ils convoitent, ils désirent ce qui n'est pas à eux, ce qui leur est interdit. Le Seigneur peut nous garder, le Seigneur peut nous pardonner, le Seigneur dit qu'on ne doit rien mettre de mauvais devant nos yeux. C'est Billy Graham qui disait que le premier regard sur quelque chose de mauvais n'est pas un péché, mais c'est le deuxième. C'est celui qui scrute, c'est celui qui va aller plus loin. Et le voyeurisme, c'est ça, qui amorce cette convoitise et le péché. Et certains, pour ne pas avoir gardé une bonne conscience, ont fait naufrage par rapport à la foi. Toujours dans Timothée, il est dit, 1 Timothée 6, verset 10, je cite, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » C'est un péché d'aimer l'argent. Je n'ai pas dit c'est un péché d'être riche. Si vous êtes dans un héritage, que vous avez beaucoup de choses, tout ça, ce n'est pas un péché d'être riche. Le disciple Joseph d'Arimathée, eh bien, était très riche, il est dit. Mais il a fait une bonne œuvre pour Jésus. Mais vous savez qu'on peut être pauvre et être attaché à l'argent, en être possédé, ne voir que ça. Et c'est un péché. Et certains ont fait naufrage, se sont égarés loin de la foi parce qu'ils ne pensent dans leur vie qu'en matière d'euros, en matière d'argent. Le Seigneur dira, on ne peut pas servir de maître, ou Dieu ou Mammon. Et si on veut servir, eh bien Mammon, c'est un faux Dieu, et c'est ce péché-là qui perdra. Ainsi, la conscience, on peut la remettre en règle avec Dieu. Le sang de Jésus est efficace, lave et annule tout péché. Amen. Si nous nous repentons, si nous les confessons, on peut immédiatement, si vous étiez dans un cas qui avait perdu bonne conscience, vous pouvez retrouver immédiatement une bonne conscience avant de sortir de ce lieu. Je le crois, et vous? Parce qu'il faut faire l'acte de se repentir. Ça passe trop vite, et comme je l'ai dit à Condon, ça va se finir en queue de poisson parce que c'est comme les actes des apôtres, il faut que ça continue. Donc j'aurai plus tard à vous dire certaines choses, mais quand même, vous dire ceci. Certains, ils ont abandonné la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Je cite 1 Timothée 4, verset 1er. Alors là, ça ne sera pas long, mais je vais vous dire. Déjà, au début de l'église de Corinthe, il y avait des personnes qui disaient, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Et il y avait des divisions. Et puis Paul, il les met d'accord et dit, est-ce que Paul a été crucifié? Et plus tard, il dira que personne, eh bien, ne puisse, bon, je vais le lire parce que je ne me rappelle pas du par cœur, je vous le lis. 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 6. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Et les doctrines de démons, l'abandon de la foi, est dû à ce qu'aujourd'hui il y en a qui suivent un homme plutôt que Christ. Oh, c'est vrai que nous devons avoir du respect pour ceux que le Seigneur a mis à part pour servir, mais au grand jamais, nous ne mettrons notre foi dans l'homme. Il y a parfois, j'ai entendu, des gens nostalgiques de serviteurs de Dieu qui sont partis avec le Seigneur, et qui en parlent comme une référence. Il est dit, bien sûr, d'imiter leur foi, si c'est vrai. Mais attention de ce que parfois certains qui sont vivants sur la terre pourraient, eh bien, nous entraîner pour nous porter à les suivre à eux. Eh bien, la foi, c'est Jésus. C'est lui que nous suivons. Et nous ne pouvons pas concevoir de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre en disant ceci ou cela. La doctrine de la foi en Jésus ne changera jamais. Les hommes s'aniront, les hommes ne sont que des hommes, mais la foi en Jésus demeure. Alléluia, alléluia. Ma conclusion pour aujourd'hui est celle-ci. Si finalement la foi a baissé aussi chez certains, c'est que nous n'avons pas assez prié. Je ne dis pas que je fais de la prière une idole, mais je veux dire, nous n'avons pas tenu assez de temps devant le Seigneur. Et pour ne pas avoir pris assez de temps devant le Seigneur, il n'y a plus cette relation, il n'y a plus ce contact. Après tout, je me dis, si vous passez beaucoup de temps devant Dieu, c'est que vous y croyez qu'il va se passer quelque chose, qu'il y aura des réponses à vos prières, mais il y en a qui ne prient plus, ou très peu. Et le Seigneur pourtant dira dans Jacques 5,15 que la prière du juste a une grande efficacité. Si je me mettais à dire, eh bien, je vais vous donner une explication pendant 5 ou 6 heures sur la prière, eh bien, je vais faire que effleurer le sujet, mais je veux m'arrêter là. La prière de la foi que vous adressez au Seigneur Jésus, elle a une grande efficacité. Vous pesez le mot, vous ne pouvez pas imaginer les retombées, et jusque dans l'éternité, vous allez voir ce que ça aura fait. C'est pour cela que nous devons prier. Jésus dira que la veuve devant le juge unique y est arrivée, et à ceux qui crient jour et nuit à lui, il ne tardera pas, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera des gens de cet acabit qui prient, qui ne se relâchent pas, mais qui croient? Alors, prions, Seigneur, augmente ma foi. Prions pour dire, Seigneur, s'il y a lieu, viens au secours de mon incrédulité, et je résisterai à Satan avec une foi ferme. Prions que le Seigneur nous permette de comprendre ce qu'est le bouclier de la foi et ce qu'est le don de foi que le Seigneur peut donner dans sa grâce. Prions pour croire que la gloire de Dieu va se manifester parce qu'il veut que nous ayons une foi non stationnaire, mais toujours plus grande, non faible, non abandonnée, mais qui va grandir. Cette femme disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai soulagé, je serai guéri. Quel est votre dialogue intérieur? Qu'est-ce que vous pensez après ce message? Le croyez-vous? Croyez-vous que je l'ai tiré de mes propres imaginations ou voulez-vous toutes les références? J'en ai 40 dans le message. Si vous croyez que la parole de Dieu, elle ne passera jamais, que c'est la parole inspirée de Dieu, eh bien, votre dialogue intérieur va commencer à dire « Je crois ». Et la puissance de Jésus, la force de Jésus sortira et vous donnera ce que vous avez besoin. Amen. Seigneur, aide-nous à marcher par la foi. Bientôt viendra que nous marcherons dans la vue. Quand nous verrons celui que nous avons cru sans voir, alors Seigneur, bénis mes frères, mes sœurs, bénis tous ceux qui, dans le début, ont entendu le message qui les appelait à se confier à Jésus et d'être sûrs qu'ils vont être sauvés. Et bénis, Seigneur, qu'aujourd'hui, ta grâce fasse que notre foi augmente toujours plus grandement et que, Seigneur, nous puissions montrer au monde que nous avons un vrai Dieu, un Sauveur vivant, ressuscité. Seigneur, alors que le monde se perd en paroles, en discours, en imagination, en surréalisme, en fiction, nous avons la foi dans le Seigneur vivant et Seigneur, nous voulons grandir. Merci de communiquer des dons de foi. Merci de nous donner le bouclier de la foi pour résister à Satan avec une foi ferme. Merci Seigneur de nous secourir dans notre incrédulité, enlève-la et pardon. Merci d'augmenter la foi de tous et de chacun. À toi la gloire, Seigneur. Amen.